Bonjour à tous, vous écoutez Calade et vous avez bien raison. Au sommaire de notre édition, les Petits Doudous, association qui a pour objet d'améliorer le vécu des enfants lors d'une intervention chirurgicale, infirmière anesthésiste du centre hospitalier, nous présente l'association. Puis, joint par téléphone Frédéric Pronchéry, président du CITO, la station d'épuration de Belleville en Beaujolais, éligible au label Bleu Blanc Zèbre. Et pour conclure, Gabriel Caramana de l'association Ampliflore nous invite à découvrir les plantes sauvages du Beaujolais. Calade, le journal. Au fait, c'est quoi la PMA ? Un remède à l'infertilité. L'assistance médicale à la procréation, AMP, plus connue sous le nom de procréation médicalement assistée, est un dispositif qui permet de remédier à certains cas d'infertilité les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants par voie naturelle, suite à une pathologie touchant le père, la mère ou les deux parents peuvent y avoir recours en France depuis 1994. Nous dit Gildas Desroseaux pour un article dans le Figaro où il fait pour nous le professeur. La mise en œuvre de la PMA recouvre trois techniques différentes. L'insémination artificielle. Les spermatozoïdes du conjoint ou du donneur sont déposés dans l'utérus de la future mère. La fécondation a lieu à l'intérieur du corps de la femme, ce que l'on appelle la fécondation in vitro. L'ovule. L'ovule de la femme ou celle d'une donneuse est prélevé, puis mis en contact avec le sperme du conjoint ou d'un donneur pour obtenir la fécondation. Une fois l'embryon obtenu, il est transféré dans l'utérus de la mère. L'accueil d'un embryon. Un embryon surnuméraire de parents donateurs anonymes est transféré dans l'utérus de la femme du couple receveur. Ce sont des procédés encadrés juridiquement. Ces techniques de procréation sont encadrées par les lois de bioéthique votées en 1994 et révisées en 2011. Elles posent quelques grands principes, parmi lesquels le couple doit être composé d'un homme et d'une femme, les deux futurs parents doivent être en vie et en âge de procréer. Le caractère pathologique de l'infertilité ou le risque de transmission à l'enfant ou aux parents d'une maladie grave doivent avoir été médicalement diagnostiqués. Toutefois, une source de questionnement éthique se pose. La PMA, aujourd'hui réservée aux couples hétérosexuels infertiles, pourrait être élargie aux femmes seules et aux couples de femmes par le biais de donneurs de sperme anonymes. Les opposants à cette extension craignent notamment l'instauration d'une filiation sans père. Ils estiment de plus qu'un tel droit à l'enfant ouvrirait la possibilité pour les couples d'hommes de revendiquer le droit à la gestation GPA pour autrui, c'est-à-dire aux mères porteuses interdites en France. Bon à savoir, en 2016, près de 26 000 enfants sont nés après une PMA, dont les deux tiers par fécondation in vitro, soit un bébé sur 30 selon l'INED. Mais cette technique médicale ne constitue pas une garantie absolue de maternité. On estime que seul un couple infertile sur deux sortira d'un parcours de PMA avec un bébé dans les bras. Joint par téléphone, Frédéric Pronchéry, président du syndicat de traitement des eaux usées, le CITO, Centre intercommunal de traitement de l'eau Saône-Beaujolais, situé à Belleville-en-Beaujolais. Éligible au label Bleu-Blanc-Zèbre, le mouvement citoyen labellise des acteurs de la société qui portent des solutions permettant de résoudre un problème sociétal.
Alors, le CITO, en fait, Belleville, Saint-Jean-d'Ardière et Paponnant devaient refaire une station d'épuration. On était des mauvais élèves à l'époque, hein, puisqu'on était classés dans les 25 points noirs qui restaient en France. Donc, c'était vraiment l'Europe condamnait la France. La France se retournait contre les 25 communes concernées. Et donc, le syndicat s'est remis en place en 2008. Et puis, en 3 ans, on a sorti une belle station, puisque en 2011, on la mettait en service au printemps 2011. Alors le but, c'était bien sûr de faire une station qui fonctionne correctement. Et donc là, le but est parfaitement rempli. Elle a une particularité, c'est qu'elle est en centre-ville et que le but, c'était zéro nuisance olfactive. Mais tous les autres inconvénients, on a essayé de les transformer en points positifs. Alors c'est par exemple, comme elle est en centre-ville, l'idée, c'était d'avoir une station qui soit bien intégrée paysagèrement, alors que qu'elle est vraiment visible quand on arrive, qu'on la sente pas du tout. Et puis l'idée, c'était aussi de montrer qu'on pouvait faire d'un outil industriel un laboratoire d'idées pour le développement durable. Et donc, avec cette station, on a testé plein de choses, des locaux nobles passifs, Donc c'était les premiers du territoire. C'est le premier bâtiment où on a fait des tests d'étanchéité à l'air quand on l'a mis en service, une simulation thermodynamique du bâtiment, un toit végétalisé, des produits non toxiques sans COV pour les peintures. On a essayé d'aller assez loin de manière à s'en servir pour tous les autres bâtiments qu'on ferait dans le futur sur le territoire. Alors ça, c'était pour la partie bâtiment. Et puis, en même temps, on s'est dit, les extérieurs, c'est une station, donc il faut qu'elle soit propre, on va la rendre visitable. Et en même temps, plutôt que d'avoir des grandes pelouses tondues tout autour, on va montrer qu'on peut faire des choses intelligentes. On a créé un verger sans traitement phyto, qui est plus que bio, puisqu'il n'y a pas de traitement du tout. On a recréé des zones de biodiversité avec trois mares qui sont suivies par l'association Arthropologia qui s'occupe des insectes et par la LPO. Donc on est labellisé Ligue de protection des oiseaux, donc avec un suivi scientifique qui est fait tous les ans. Puis bien sûr, on a mis des animaux brouteurs pour ne plus passer d'énergie fossile à l'entretien des étendues vertes autour de la station.
C'était Frédéric Pranchéry, joint par téléphone, le président du syndicat du Centre intercommunal de traitement de l'eau Saône-Beaujolais, est éligible au label Bleu-Blanc-Zèbre, un mouvement citoyen qui honorifie des acteurs de la société portant des solutions permettant de résoudre un problème sociétal. Son efficacité n'étant pas prouvée, l'homéopathie ne doit plus être remboursée par la Sécurité sociale, estime la Haute Autorité de Santé, adoptée mercredi par la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de Santé. Cette conclusion très attendue, qui confirme un avis provisoire rendu mi-mai, marque la fin du processus d'évaluation scientifique de l'homéopathie. En revanche, elle ne marque pas celle du débat sur son déremboursement, puisqu'il revient maintenant au gouvernement de prendre la décision. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a affirmé à plusieurs reprises qu'elle suivrait l'avis de la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de Santé. Selon Libération, qui a pu consulter l'avis, la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de Santé a donc voté à très grande majorité, une seule voix contre, le déremboursement des produits homéopathiques. Près de 127 millions d'euros de remboursement en 2018. Un coup dur pour les fabricants. Les trois laboratoires, le français Boiron, leader mondial, le suisse Velda et l'allemand Lenning. En cas de déremboursement, le groupe lyonnais anticipe une baisse de 50% des ventes sur ses produits remboursables la première année, puis de nouveau 50% la deuxième. Les labos assurent que cela menacerait 1000 emplois chez Boiron en France sur près de 2500 et 300 chez Velleda et Lenning. Si les médecins sont nombreux à mettre en doute l'efficacité de l'homéopathie, les patients, eux, continuent de faire confiance aux petites granules. 72% des Français pensent ainsi que l'homéopathie a des effets positifs sur la santé, révélé en début d'année le baromètre santé réalisé par Odoxa pour France Inter. Ils ne sont cependant que 52% à déclarer consommer ce type de médicament. Et pour conclure cette édition, nous vous invitons à découvrir les plantes sauvages qui s'invitent de nouveau dans nos assiettes, disparues pour un temps de notre environnement. La conscience du respect de notre milieu naturel retrouvée, les adeptes ne manquent plus de pousser grâce à Gabriel Caramana de l'association Ampliflore qui nous invite à mieux découvrir les plantes sauvages du Beaujolais.
Bon, c'est vrai qu'on a un territoire, une géologie très diversifiée, ce qui amène aussi à avoir beaucoup de plantes différentes, notamment dans mon secteur qui est plus côté Beaujolais vert, etc., où je dirais ça reste vert très longtemps. Donc du coup, ça amène à avoir beaucoup de diversité au niveau des plantes.
Alors justement, emmenez-nous un petit peu dans ce paradis de ces plantes sauvages, puis on détaillera après peut-être un petit peu plus, mais qu'est-ce que l'on rencontre quand on se promène dans le Beaujolais? Il faut peut-être avoir l'œil quand même.
Oui, c'est vrai qu'il faut, ouvrir l'œil. En fait, c'est ce que je fais. Moi, j'emmène les gens dans la nature et je leur apprends à s'émerveiller et à ouvrir l'œil sur cette nature. Donc, en ce moment, par exemple, on a les faines des hêtres qui sont des petits fruits un petit peu, donc le hêtre est de la même famille que le châtaignier. Donc on va trouver aussi ces petits fruits avec des graines petites, je dirais de la taille d'un pignon, et qui sont très agréables à manger. Il y a plein de petits fruits sauvages en ce moment, comme les prunelles, les senelles. Enfin bon, c'est des noms qui ne parlent peut-être pas à tout le monde, mais voilà, il y a plein de petites choses à voir, même à l'automne, même quand c'est très sec.
Alors ça, effectivement, ce sont toutes les plantes comestibles, puisque nous, les humains, nous sommes des cueilleurs. C'est bien ça, nos ancêtres, etc., faisaient les cueillettes, c'est ça?
Oui, c'est ça. Depuis la nuit des temps, on utilise, nous humains, les plantes sauvages.
C'était Gabriel Caramana, ethnobotaniste de l'association Ampliflore, spécialisée dans les plantes sauvages du Beaujolais. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur calade.fr, sans oublier notre page Facebook Calade Info. Très bonne continuation sur Calade. Souriez, c'est vendredi.